Session théologique par le Père Marie-Dominique Philippe. À Rimont, le 3 novembre 90.
J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, n'hésitez pas si il y a des questions qui peuvent se poser. Écrivez-les sur un petit papier que vous déposerez sur le bureau et j'essaierai d'y répondre. Parce que vous ne pouvez pas lever la main à Dieu. Pour arrêter, c'est plus difficile, on est trop nombreux. Mais vous pouvez toujours, et je crois que c'est bien, ça permet un dialogue comme ça. Donc n'hésitez pas si, dans ce que je peux dire, il y a des questions que vous aimeriez qu'on précise, ou certains points où vous n'êtes pas d'accord, vous mettez pourquoi. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est pas une question affective, je suis pas d'accord. Donc il faut dire pourquoi. Alors à ce moment-là, on essaie de répondre pour vous, comme recherche de la vérité, dans toute interrogation. Dans toute objection, il y a une petite paillette de vérité. Et on est possédé par la vérité, on ne possède pas la vérité. Nous recherchons la vérité. La vérité, c'est le Christ. Ça nous dépasse infiniment. Puisque c'est lui qui est la révélation plénière. Alors je continue, parce que je crois ça très important. Quand on vit un moment difficile, on vit un moment difficile. Pour l'Europe, pour le monde, on ne peut pas le nier, et pour la chrétienté. On vit un moment difficile. Notre siècle, le 20e siècle, est un moment qui a été extrêmement secoué. Et où tout va très vite. C'est le siècle de la vitesse. Ça, c'est sûr, à tout point de vue. C'est le siècle de l'ordinateur. C'est tout dire. On presse des boutons et puis ça pense. Du moins, on croit que ça pense. Tout va tellement vite qu'on n'arrive même plus à contrôler. Donc, la prudence humaine est dépassée par une technique extrêmement poussée. Il y a les deux dépassements. Comprendre ces deux dépassements et comprendre comment ça se fait. Quand on vit un moment de très grande secousse, on doit revenir à la source. C'est Heidegger qui dit ça, un philosophe qui est mort maintenant, mais qui est pas loin de nous. Il dit ce qui est merveilleux, ce qu'on vit actuellement. Lui se place du côté philosophique, mais c'est vrai au point de vue théologique, et c'est vrai du côté de notre vie chrétienne. Ce qui est merveilleux, c'est de vivre ces secousses qu'on vit, parce que ça nous oblige de revenir à la source. Et c'est vrai, ça. C'est pour ça que le mystère de notre vie chrétienne, la source, c'est l'Annonciation. Source fondamentale, radicale, et puis la croix. Les deux mystères qu'on verra bien progressivement. Et je crois qu'il faut tout le temps venir à l'écriture. On ne vit pas, comprenez bien, on ne vit pas de la théologie, on vit de l'écriture. Notre foi adhère à l'écriture. Si on fait de la théologie, et c'est très bien, c'est pour mieux comprendre l'écriture. C'est pour la comprendre au-delà d'un point de vue purement historique, d'un point de vue purement philologique. C'est pour la comprendre en profondeur. C'est pour mettre toute notre intelligence au service de la parole de Dieu. C'est pour être intelligent pour que Saint Luc a dû recevoir, ou directement de Marie, ou par l'intermédiaire de Jean. Je sais pas. Je peux pas le savoir. Et vous non plus. Saint Luc ne le dit pas. Si Saint Luc était un moderne, il aurait mis une note. Je tiens ce récit directement de la Vierge Marie. Elle me l'a dit à tel lieu et à tel moment. Je tiens ce récit de Jean, le disciple de Marie, le fils bien-aimé de Marie. Il me l'a dit à tel moment, et lui-même la tenue de Marie. Il nous aurait dit ses sources. Il ne les dit pas. Parce que l'Esprit Saint, le maître de l'oubli, lui a vu que dépasser tout ça. Faut aller beaucoup plus loin. Faut recevoir ça. C'est l'Esprit Saint. C'est par l'intermédiaire de Marie. C'est du reste très beau. Et l'ange t'y dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Jésus Sauveur, Dieu qui sauve Jésus, c'est le Sauveur, Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, pour tous les siècles. Et son règne n'aura pas de fin. C'est une annonce messianique. Ça, c'est sûr. Pour Marie Zénette, on lui annonce qu'elle va être la mère. Ce Messie, il s'appelle Jésus, Sauveur, celui qui vient sauver son peuple. On l'appellera Fils du Très-Haut. Ah, ça, c'est nouveau. Et puis on montre que le Seigneur lui donnera le trône de David. Donc l'alliance avec David va être reprise. Et il régnera sur la maison de Jacob. Pour les siècles des siècles, son règne n'aura pas de fin. Vous voyez, c'est un Messie qui est bien incarné en Marie. C'est sa mère. Mais ce Messie tout de suite est montré comme quelque chose qui dépasse les temps. Pour Marie, qui connaît l'écriture, qui connaît les prophéties d'Daniel, qui connaît la prophétie d'Isaïe, la Vierge qui enfante, c'est très possible que quand Marie lisait ce passage, l'Esprit Saint l'éclairait. Ça ne m'étonnerait pas du tout. On lui demandera. Comment elle lisait ce passage? Parce qu'elle le lisait avec une intelligence plus grande que la nôtre, une intelligence divine, avec le don d'intelligence qui fait pénétrer tout de suite la signification profonde de la parole de Dieu. C'est très très possible. Ce serait même pas étonnant. La Vierge enfantera. Ou Marie ne devait pas dire « Oui, c'est moi », non, sûrement pas. Elle devait rester dans cette possibilité, se mettre à la disposition de Dieu, que Dieu fasse d'elle ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que l'ange éveille en elle, dans sa foi, dans son espérance, dans son amour, quelque chose d'extraordinaire, d'unique. Être la mère du Fils du Très-Haut. Elle concevra, elle enfantera. Il n'y a que la mère qui conçoit. tu vas avoir un grand silence. Faut respecter les silences de l'écriture. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas eu un grand silence à ce moment-là? Un silence d'amour quand on reçoit un secret. Chaque fois qu'on reçoit un secret, on entre dans le silence. Notre âme n'est pas assez silencieuse parce qu'on ne garde pas assez de secrets, de secrets divins. Toute parole divine, quand elle est vivante, est pour nous un secret de Dieu pour nous et nous met dans le silence. Le silence de la prière, c'est recevoir un secret. Quand on reçoit un secret, on garde le silence. Et Marie reçoit là un secret extraordinaire, bien plus que tout ce qu'elle avait pouvait attendre. Être la mère du Fils du Très-Haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas le savoir. Du reste, elle ne cherche pas à savoir. Elle reçoit dans sa foi la bonne terre qui reçoit ce secret. Alors on comprend très bien l'interrogation. Comment cela sera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Vous voyez, le réalisme de Marie. Elle n'est pas partie tout dans des considérations extraordinaires. Alors, je serai la mère du Fils du Très-Haut. Alors, mon lien avec le Père. Vous voyez, tout de suite, hein. C'est vrai, ça. À Joseph, je ne connais point d'homme. Petite contradiction apparente. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les pères de l'Église, à partir de là, ont dit Marie s'était consacrée à Dieu. Et quand Joseph l'a choisie, elle a donné son secret à Joseph. Elle a dit son secret. Elle est consacrée à Dieu. Si Joseph veut l'aimer, comme un époux aime son épouse, il faut qu'il comprenne qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Elle est totalement consacrée à Dieu. Et Joseph l'aime tellement que c'est elle qu'il veut. Il y a ça qu'il faut découvrir. Vous voyez, c'est caché, je vous dis, les catacombes. Les catacombes. Les secrets comprennent qui veut comprendre. Mais si vous êtes uniquement un observateur, un concierge, vous ne comprenez rien. C'est vrai. J'ai vu deux personnes qui se sont rencontrées, se sont dit deux mots, j'ai rien compris. Ça, c'est le spectateur. La parole de Dieu ne nous est pas donnée derrière une vitrine. C'est très beau, c'est très beau, c'est pas une vitrine. C'est pour nous. C'est pas pour nous amener une jalousie par rapport à Marie, parce qu'elle a de la chance d'avoir été la mère de Dieu. Le Saint-Esprit aurait pu attendre et m'attendre que je sois là. Non. On ne peut pas être jaloux, c'est impossible. On ne peut pas être jaloux à la part de Joseph. Impossible. C'est pas une vitrine. C'est pour qu'on soit témoin. Et témoin, il est engagé. On est engagé. On est lié à ça. Je suis lié à Marie. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment elle a reçu ce message. Puisque c'est le point de départ. cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? Réellement, en face de Dieu, elle parle à l'ange comme elle parle au Père, puisqu'il est un envoyé de Dieu. Puisque l'ange dit des secrets que Dieu seul connaît. Alors elle peut, on dirait aujourd'hui, ouvrir son cœur. L'ouverture du cœur, hein, ça commence comme ça. Elle dit ça à l'ange, parce que l'ange, il va directement hein, la finalité. Tu concevras, tu enfanteras un fils. Mais oui, mais comment ? Comment ? Le commodo de Marie. Oui, alors, si vous voulez bien comprendre cela, regardez la page précédente. Hein. Regardez la manière dont Zacharie, lui, s'inquiète. Parce que l'ange a dit à Zacharie des choses assez étonnantes. Qu'il va être le père d'un fils. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Lui-même marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela ? Pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant. À quoi reconnaîtrai-je cela ? Donc, Saint Luc 1, 18. Car moi, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Donc tu dis des choses qui sont pour les vieillards des racontards, quoi. Tu vas me faire vivre un rêve. C'est impossible, c'est impossible. Et l'ange dit, moi, je suis Gabriel. Hein ? Il rappelle son autorité. En face de Zacharie, il rappelle son autorité. Et moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Quand on se tient devant Dieu, on ne peut dire que la vérité. C'est en recevant la parole de Gabriel qu'il comprendra que c'est la vérité. Alors qu'il demande un témoignage extrinsèque. À quoi reconnaîtrais-je cela ? Ah, il n'est pas très content, Gabriel. Ça se sent. Hein. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler. Et tu ne reçois pas ma parole. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu devrais être dans la joie. C'est Dieu qui te regarde et qui t'aime. Ça prouve que Zacharie n'était pas très heureux. J'ai les gens tristes, ça arrive, hélas. Les gens tristes et les vieillards tristes, ça arrive, hélas. Ils ne peuvent plus comprendre qu'ils vont être joyeux. J'ai beaucoup prié. Et puis, rien ne s'est fait. Il a désiré avoir un enfant. Élisabeth encore plus. Et puis, il n'a pas eu. Alors, il n'arrive pas à découvrir cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence. Tu n'as pas voulu croire ? Tu vas être réduit au silence. Ça arrive de temps en temps. Oh, j'étais réduit au silence à cause de ça. Mais quelquefois, je me pose la question. Il y a encore un petit filet d'eau qui repasse. Alors, ça va encore. Donc, ça... Mais c'est vrai, ça. Vous êtes attentif à ça. Il ne faut pas croire à cause de ça. Hein. De peur d'être réduit au silence. Non. On croit parce que Dieu nous parle. Et parce que Dieu veut que nous adhérions à sa parole. Et que nous adhérions à son don. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Zacharie, il a eu peur. Je crois qu'il a eu surtout peur d'Élisabeth. Ça arrive, ça. Il a eu surtout peur d'Élisabeth. D'annoncer à Élisabeth quelque chose qui pourrait ne pas être vrai. Il a dû avoir comme ça des petites scènes de ménage. On voit très très bien ça. Il s'est pas arrivé. Il a dit, je J'ai prié, tu verras. J'ai prié, ça arrivera, puis rien du tout n'est arrivé. Elisabeth n'a pas eu d'enfant. Alors lui annoncer maintenant. C'est pas commode. Alors on voit très bien, ça, c'est visible. C'est... Et moi aussi, tu vas être réduit au silence. Comme ça, tu n'auras rien à dire. Tu as peur de le dire, mais c'est très simple. Tu te réduis au silence. Sans pouvoir parler. Jusqu'au jour où ces choses arriveront. Et encore les souterrains de Dieu. C'était mystérieux. Les catacombes de Dieu. Deux catacombes différentes. Les catacombes de l'Ancien Testament et les catacombes du Nouveau Testament. Et tout ça se passe d'une façon maternelle. C'est très extraordinaire pour le regard de Dieu sur la femme. Tout se passe de façon maternelle, de façon cachée. Oui, c'est très important pour nous. Parce que nous n'avons plus toujours ce sens-là. C'est vrai, aujourd'hui, on le sait. On n'a plus le sens du sacré et de la procréation, quelque chose de sacré. Et là, on le voit bien, les catacombes de l'Ancien Testament en Élisabeth. Et il faut que Zacharie, qui est prêtre, qui par le fait même aime de parler, n'est-ce pas ? Les prêtres parlent normalement. Il faut que Zacharie accepte de laisser que le silence pour Élisabeth. Enfin, Élisabeth aura du calme. Dieu le met en silence. C'est extraordinaire comme catacombe de l'Ancien Testament. Et le petit Zacharie, porté dans le sein de sa mère, il y a 6 mois, il va y avoir cette chose étonnante de la visite de Marie. Les deux rencontres des catacombes, c'est merveilleux. Marie, après l'Annonciation, qui va auprès d'Élisabeth, elle va auprès d'Élisabeth pour le petit Jean-Baptiste. Élisabeth sera illuminée et elle comprendra tout. Et Zacharie un peu plus tard. C'est étonnant ce langage de Dieu. Vous voyez, alors, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, puisque nous sommes dans le mystère de l'incarnation. On ne cesse de parler de la parole de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être très attentif aux gestes de Dieu. Comprenez. Que toujours, il y a le mystère de la parole, le logos de Dieu, et le mystère des gestes de Dieu. La révélation se fait à travers la parole et les gestes, tout de suite, dès le début de la Genèse. Deux récits, Dieu dit que la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, c'est la parole créatrice qui regarde la lumière. Première chose que Dieu crée, la lumière. C'est quand même extraordinaire. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Début de la Genèse. Et second récit de la création, les gestes. C'est le Père qui fait le geste du potier. Il façonne le corps d'Adam. Et le Père qui fait le geste du chirurgien. Il façonne le corps d'Ève à partir de la côte d'Adam. Les deux gestes. C'est curieux du reste. Et tout de suite, et c'est ce que nous avons beaucoup trop oublié, que Dieu parle par la parole et par des gestes. Parce que c'est une parole familiale. C'est pas la parole d'un professeur. Un professeur académique, la parole, uniquement, rien de plus. Tandis que regarder dans un foyer comment une mère éduque-t-elle ses enfants. Elle les éduque plus par son silence et ses gestes que sa parole. Le père, il a de la voix. Alors, il éduque quelquefois plus par la parole. Il y a des gestes frappants. Alors, c'est autre chose. Et il éduque aussi par là, par ses gestes aussi. Au bon moment, les caresses de la mère. C'est extraordinaire de voir que Dieu se sert de la parole et des gestes pour nous faire comprendre que c'est une éducation paternelle et maternelle. La foi est une connaissance aimante, affective. C'est la connaissance d'un enfant. Et un enfant, il ne reçoit que de sa mère, que de son père. Vous savez, la première fois qu'il a été à l'école, il ne reçoit pas très très bien. Il faut s'habituer. Il recevra après avec un professeur. Mais il ne faut pas oublier ça. C'est capital que le mystère de la foi nous fait adhérer à la parole et au geste. Alors, quelle différence entre la parole et le geste? La parole est le fruit de notre intelligence. Le geste, il est le fruit de notre cœur. Le geste exprime beaucoup plus toute notre affectivité. Il est lié au corps. Tandis qu'au contraire, la parole est liée à notre intelligence. Oui, quand on aime quelqu'un, qu'on veut lui exprimer notre affection, tout de suite, quand on est en face de quelqu'un qui souffre, et qu'on veut lui montrer qu'on est là présent, on lui serre sa main. Et aux enfants, l'enfant ne comprend que quand on touche sa main, il comprend alors. Et le vieillard a besoin aussi de cette affection. C'est extraordinaire de comprendre ça. Alors, ici, les catacombes, Dieu enseigne par sa parole à Zacharie. Il enseigne par le geste. Tu deviendras muet. Il enseigne Élisabeth par sa parole et par cette fécondité miraculeuse. Et c'est vrai, le mystère de la maternité d'Élisabeth prépare la maternité de Marie. Et comme si tout l'Ancien Testament s'achevait dans ce geste, le geste le plus extraordinaire qui soit, la mère qui porte son enfant. C'est le geste le plus extraordinaire. Et c'est Dieu qui a inventé ça. Et Dieu s'en est servi. Puisque quand Marie était présente, portant l'enfant Jésus, le petit Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, a gesticulé, il a dansé. Souterraine merveilleuse, étonnante, qui fait que la mère était secouée. C'est un geste souterrain des catacombes. Il faut qu'on essaie de comprendre ça pour comprendre le mystère de la foi, vous voyez, dans ce qu'il a de premier, de radical. Nous regardons la foi, hélas, trop souvent, dans ses élaborations ultime. On doit revenir à la source. La foi, c'est recevoir une parole qui est un secret. C'est recevoir les gestes de Dieu. Et le geste dernier de Dieu pour l'Ancien Testament, c'est la maternité d'Élisabeth. Le grand geste de Dieu. petite enfant, Marie, la jeune fille de 18 ans, Marie, à l'Annonciation, chef-d'œuvre de toute la création. Dieu va se servir de ce chef-d'œuvre pour te donner son secret. Il se sert de sa créature. Il se sert de sa créature la plus fragile, la plus aimante, celle qui a le plus grand sens d'être une créature. Et donc, dans sa pauvreté, et en même temps la perfection, il se sert d'elle. Tu concevras. Les hommes sont devenus si puissants, puisque les hommes peuvent détruire notre petit cosmos d'une façon facile, en un instant, on appuie sur un bouton, ça y est. Je ne sais pas combien de fois on peut détruire l'univers, mais de multiples fois. Si tout ce que l'homme avait comme pouvoir de destruction éclatait en un instant, c'est du reste pour ça qu'on est angoissé. L'angoisse provient de ça. Parce que souterrainement, il n'y a plus aucune certitude, aucun lieu sûr. Alors on est obligé de regarder. Rien n'est impossible de la part de Dieu. Vous voyez, on est acculé à vivre une vie théologale. Une vie de foi, d'espérance et de charité. C'est ça le renouveau. On est acculé à ça. Parce que justement, on ne peut plus avoir confiance en l'homme. Ayez confiance dans les diplomates. On ne sait pas lequel roule l'autre. Lequel roule l'autre? Actuellement, dites-moi lequel roule l'autre. On sait que l'un et l'autre veulent se rouler. Là, c'est sûr. Là, c'est une évidence. Alors, comment avoir servant du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur, traduit Père Hostie. Pour exprès mettre toute ma force, tout l'os. Qu'il m'advienne selon ta parole. Alors, je m'arrête un instant à la réponse de Marie, puis on va essayer de comprendre ce mystère de la maternité divine, qui est au point de départ de toute notre foi chrétienne. Vous voyez, Marie ne répond pas. Oui, j'accepte d'être la mère du Fils de Dieu. Ce que nous aurions dit. Pas moi, mais vous. J'accepte d'être la mère de Dieu. On répond selon la compréhension qu'on a de la parole de Dieu. On fait tout ça parce qu'on vit une culture. On a très conscience d'être intelligent et même d'être très intelligent. Alors on répond à Dieu selon notre intelligence. On ne répond pas comme des enfants. Et la foi réclame de nous de venir comme des tout petits. C'est le mystère de la foi. C'est la petitesse évangélique. Et on répond comme ça. Oui, selon, comme dans un examen. Dans un examen, il faut montrer qu'on n'est pas bête. Il faut montrer le plus qu'on peut. Là, on a le droit. C'est même un devoir de montrer qu'on est intelligent. Quand on est en face de Dieu, on ne montre pas qu'on est intelligent. On montre que Dieu est amour et qu'il nous aime. Et on l'a compris. Quand on est en face de quelqu'un qui nous aime, on n'a pas envie de montrer qu'on est intelligent. C'est curieux. On a envie de montrer qu'on aime. Comme lui. On répond amour pour amour. Alors, la réponse la plus merveilleuse de l'amour, Dieu demande à Marie un service. Un service merveilleux, inouï. De confiance. Être la mère du Fils de Dieu. immédiatement. On ne dit pas, tu concevras après avoir fait telle ou telle chose. Non, tu concevras. Maintenant, au moment du fiat. Et Marie a conçu au moment du fiat. Je crois ça très important de comprendre que notre foi chrétienne, je dis bien notre foi chrétienne, il y a un mode particulier entre la foi d'Abraham et la nôtre. Substantiellement, c'est la même foi. Notre foi chrétienne a un réalisme unique. Notre foi chrétienne dépasse la parole et touche le mystère. Et parce qu'elle touche le mystère, elle est capable de recevoir un don personnel. Et elle reçoit un don personnel, le don. C'est le réalisme de la foi chrétienne, cela. C'est le Fils bien-aimé du Père qui est donné à Marie et qui lui est donné de la manière la plus forte qui soit, qui lui est donné pour être son Fils.
Session théologique par le Père Philippe, à Rimont, le 3 novembre 90.
Alors, il y a une question Je vous demanderai après s'il y en a d'autres. À quoi connaîtrai-je cela? Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Telles sont les réponses de Zacharie et de Marie à l'ange Gabriel. Pourquoi la première est-elle sanctionnée et pas la seconde? C'est un fait. Si je ne comprends pas, je regarde le fait. Et le fait doit m'éclairer. C'est toujours comme ça qu'il faut faire dans l'écriture. Vous voyez bien, l'ange est sûrement un instrument de Dieu. Je ne mets pas en doute. Bon, s'il sanctionne Zacharie, ça prouve qu'il y a quelque chose dans la demande de Zacharie qui est un manque de foi. L'ange ne sanctionne pas Marie. Au contraire, il lui demande d'aller plus loin dans une attitude d'abandon plénier. Je dis ça, vous voyez, au point de vue lectio divina, au point de vue interprétation d'écriture, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut dire que les envoyés de Dieu, puisqu'ils sont des envoyés de Dieu, et que l'écriture nous les donne comme les envoyés de Dieu, donc c'est juste ce qu'ils font. Alors, dans quelle mesure la première suppose-t-elle un manque de foi et pas la seconde? Pourriez-vous expliquer? Alors, je reviens dans le texte de l'écriture, vous allez comprendre, j'espère. Parce que c'est évident que c'est très beau. Quand vous aurez le temps, ça peut arriver, on essaie de regarder toutes les annonciations qui sont dans l'écriture. C'est très très beau. Vous voyez, toutes les annonciations. Il y en a des quantités. Pour comprendre le mystère de l'annonciation. Les autres sont moins mystères, sont plus d'ordre charismatique, j'allais dire. C'est Dieu qui intervient directement. Tandis qu'il y a une annonciation, elle, qui nous met en présence du mystère d'une manière toute particulière, c'est l'annonciation faite à Marie. Oui. Alors, je regarde cette annonciation faite à Zacharie. Donc l'ange dit, lui-même marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Donc c'est la mission. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrais-je cela? À quoi connaîtrais-je cela? Voilà l'interrogation. Il doute. Voilà. Une question comme celle-là, vous voyez, c'est comme dans tout dialogue. Vous savez que dans tout dialogue, l'interrogation fait beaucoup. La parole de Dieu est une parole vivante. Elle est écrite. Elle doit retenir une parole vivante. Comment revient-elle une parole vivante? Quand elle sort de la source. Saint Thomas dit simplement, une parole vivante, c'est une parole qui est conjointe à sa source. Je sais ce que c'est, puisque j'ai beaucoup enseigné dans ma vie. Il y a des cours vivants et des cours qui ne sont pas très vivants. On a son cours écrit. Et puis on le redonne. Je me souviens, cette petite expérience que j'ai faite quand j'ai été étudiant. On avait un très bon professeur qui était merveilleux et qui était un peu paresseux, quoi, pour dire les choses comme elles sont. Il avait son cours qui était fait, vous voyez, comme les prédicateurs, ils sont tous leur registre. Alors tout simplement, plutôt que de se mettre en prière et demander au Seigneur ce qu'on doit faire, ce que je crois. Il n'y a jamais de répétition pour le Saint-Esprit. Ils prennent leurs feuilles, puis ça y est. Alors ce bon professeur, pendant une demi-heure, nous a lu son cours. Ah, pardon. Ah oui, tout ce que je vous ai dit là. Non. Ah, je vais corriger, c'est plus ça du tout. Ah, dis-moi, ça c'est quelqu'un qui n'était pas très présent à son cours. Il n'a pas très pensé, il a simplement répété. Donc, sa parole n'était plus une parole vivante. C'était le texte écrit. Il avait changé entre deux. C'est identique, c'est passé comme ça. On s'est tous tordus comme des fous. On l'aimait beaucoup, ce professeur. Alors, ça n'a un changeait rien du tout notre affection pour lui. Mais quand même, il aurait pu quand même faire un petit peu attention. On a tous perdu une demi-heure. Un cours vivant, c'est un cours qui est pensé en même temps qu'il est dit. Étant donné que la pensée est source de la parole. Du moins, c'est ce que je crois. C'est ce que j'expérimente. Bon, il y a des cours plus ou moins vivants, suivant qu'on est plus ou moins inspiré. Et cela dépend énormément de l'auditoire. Quand on... Je dis ça tout de suite. Ça dépend énormément de l'auditoire. Beaucoup plus que du champagne. Ça dépend énormément de l'auditoire. Si on est sensible à son auditoire. Moi, je suis très sensible à l'auditoire. Grâce à Dieu. Parce que je crois que c'est une qualité. On sent tout de suite dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui fait la tête. Tout de suite. Ah, c'est effrayant. Et on tape dessus. À Fribourg, les étudiants s'amusaient à ça. Parce qu'ils savaient que de temps en temps, je piquais une sainte colère. Et je dis bien une sainte colère, c'est pas une colère passionnée. Je voyais un ou deux étudiants qui pratiquement, nettement, n'écoutaient pas. C'est très gênant. J'arrêtais. J'attendais qu'ils comprennent. Vous leur disiez, vous les sortez, vous savez. Le cours sera très bien sans vous. Et vous êtes très gênant. Ayez au moins la politesse, puisque je vous parle d'écouter. Vous ne comprenez pas. Très bien. Il faut éduquer les gens à écouter. Qu'est-ce que font ? Qu'est-ce que c'est que la foi ? Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. En tant que prédicateur, en tant que enseignant, on est responsable de l'éducation qu'on donne. On éduque à écouter. Alors, évidemment, il faut autant que possible être vivant. C'est-à-dire, autant que possible, il faut être branché à la source. Oui. Si le contact n'existait plus, l'appareil ne marcherait plus. Nous avons, nous, un contact avec l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on récite une prière à l'Esprit Saint au début du cours. Parce qu'on demande qu'un cours de théologie soit branché sur l'Esprit Saint. Et non pas, je donne pas le cours de théologie comme n'importe quoi. Vous voyez la différence avec un cours de philosophie. Un cours de philosophie, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. On est beaucoup plus indépendant. Un cours de théologie, on est dépendant de l'Esprit-Saint. Et je crois que l'Esprit-Saint continue de nous inspirer, de nous éclairer. Et on sent tout de suite ceux qui sont plus ou moins. C'est pour ça que je dis, on est plus ou moins inspiré selon l'auditoire. Quand un auditoire est très avide, l'Esprit Saint nous inspire beaucoup. C'est extraordinaire, ça. Et on le sent tout de suite. Quand un auditoire n'est pas très avide, l'Esprit Saint nous laisse, puisque on a quand même une petite supériorité à l'auditoire en enseignant, parce qu'on connaît un peu mieux sa matière que ceux qui écoutent. Et si dans l'auditoire, il y a des gens très calés, on ne sait jamais, très très calés, là, à ce moment-là, ils vous posent des objections très grosses. Ce que j'aime beaucoup. J'aime des objections. Ça vous oblige d'aller plus loin. Mais quand on sent que quelqu'un vous pose des objections grosses, on répond grosses. c'est sûr, connaissez-vous. Parce que c'est du tac au tac. Intellectuellement, c'est comme ça qu'on avance. Vous voyez ? Donc c'est une correction fraternelle, mutuelle. On est comme ça, net. Alors, je reviens au texte. Vous voyez, c'est très net ici. Je ne peux pas mettre en doute l'intelligence de l'ange Gabriel. Absolument pas. L'ange Gabriel est envoyé de Dieu. L'ange Gabriel a une intuition beaucoup plus forte que Zacharie. Alors, la parole de Zacharie, vous voyez, elle peut s'entendre de diverses manières. Je suis tout à fait d'accord. Comme toujours dans un dialogue. Un dialogue peut s'interpréter de diverses manières. À quoi connaîtrais-je cela ? Donc, ce que tu viens de me dire. À quoi pourrais-je savoir que c'est ça la vérité ? Et on ressent très bien ce que je dis ce matin. Il a la frousse de dire ça, Elisabeth. Je comprends, du reste. Surtout si Elisabeth a été échaudée plusieurs fois dans sa vie par le cher Zacharie. Je comprends très très bien. Il s'est regardé à la place d'écouter l'ange. Il a interprété la parole de l'ange en fonction de sa capacité, en fonction de ce qui serait normal et prudent. Ce que nous faisons, du reste, constamment, il faut bien dire. Quand nous sommes en face d'un supérieur qui nous donne un ordre, ça arrive de temps en temps dans la vie religieuse. Alors, quand on est en face d'un supérieur qui vous donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On, tout de suite, sauf si on est vraiment entièrement donné. On interprète cet ordre en fonction de ce qui nous est possible à faire. Ça m'arrive constamment, ces choses-là. Quelqu'un attend au téléphone en disant « Mais vous n'avez pas téléphoné !»« Pardon, je vous ai téléphoné deux fois, mais c'était occupé. » Oui. On répond, parce que celui qui nous interroge n'est pas n'a pas autorité. Et il nous fait un reproche. On lui dit « Écoutez, c'est pas juste. » Est-ce que ce serait plus vertueux de se taire? J'en sais rien. Parce que je crois qu'on doit remettre de temps en temps l'humilité. Attention, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Et donc tout de suite, l'aspect négatif. Je sais très bien quand on est fatigué, on est comme ça. On met l'aspect négatif tout de suite en premier lieu. Notre monde est fatigué, c'est pour ça que la négation l'emporte sur l'affirmation. C'est ça la modernité philosophique. C'est que avant les anciens, l'affirmation était avant et la négation était après. Maintenant, la négation est première et l'affirmation vient après. Et on vit un monde où la négation est avant l'affirmation. Ah, c'est extraordinaire, ça. Vous voyez, je parlais il y a quelques années à une classe terminale, c'était des filles. Pas de c'était les dominicaines. J'étais tout à fait à l'aise, si vous voulez. Alors, je leur parlais, je ne sais plus trop quoi, de la haine et de l'amour. Et je t'ai dit, on a de la haine quand un amour a été frustré. Mais toute haine présuppose un amour. Une fille a levé la main. Ah, pas du tout, mère, pas du tout. Je dis quoi? Ah, la haine, pour moi, c'est premier. C'est la première fois que j'entends d'une jeune fille de 16-17 ans. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que si c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Cette pauvre fille sera malheureuse toute sa vie. À 18 ans, pour encore se corriger. J'essayais de faire comprendre, mais non, analysez votre haine. Pourquoi avez-vous la haine contre quelqu'un? Pourquoi? C'est en fonction de ses actes. C'est pas la personne. Parce qu'elle vous a joué du piège, ou des trucs comme ça. Alors vous avez de la haine. D'où vient cette haine? Alors, on analyse, on voit que la haine n'est pas première. Il y a toujours un amour. C'est un fait. On est très sensible vis-à-vis de la réaction de personnes qu'on aime bien, auxquelles on a de l'estime. T'as quelqu'un qui est complètement étranger. Quand je passe dans la rue et que j'ai un couacement de n'importe qui, ça m'est tout à fait indifférent. Voulez-vous. Je dis bonjour, puis c'est tout, exprès. Et je fais auprès de lui, je dis mais pourquoi? J'ai un corbeau blanc, moi. Ça marche pas. Vous devriez être en admiration devant un corbeau blanc. Parce que ça rencontre rarement. J'ai fait plusieurs fois ça. Là, je vois qu'à partir de ce moment-là, on blague, c'est tout. On enlève cette petite. Mais ils sont de la haine, pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants d'autres. Dans les rues de Paris, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais une fois, c'était le jour où le Saint-Père était venu à Notre-Dame. Ce jour-là, tous les Dominicains étaient en blanc. Alors évidemment, ça jurait un petit peu d'habitude. Ils étaient tous. Alors je revenais avec un autre Dominicain. En costume blanc, quelqu'un passe dans une petite rue et il se met à crier des injures. Alors je vais vers lui, puisqu'elle allait assez lentement, je vais vers lui. Je dis, monsieur, pourquoi êtes-vous en colère? On est joyeux, nous, parce qu'on a un père. Peut-être que ça a changé de tonalité, vous savez. C'est à ce moment-là que moi j'ai interrogé. On est joyeux, on a un père. Que le pape vienne à Paris, mais c'est une joie pour nous. Parce que c'est notre père. Et tout le monde est en fête. Vous n'êtes peut-être jamais connu ça. Est-ce que vous avez un père ? Alors, je commence à l'interroger. Je vous un certain temps, je dis, voyez, c'est ça qui manque le plus dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de père. De vrai père. Il y en a encore heureusement dans la famille, mais voyez, de vrai père. Quand le pape est venu à Fribourg, j'étais plus à l'université, j'avais pris ma démission, je l'avais quitté à cause limite d'âge. Et j'étais à Rimont. Et le pape, à l'université, donc j'étais du côté des étudiants. Ce qui était beaucoup plus agréable de recevoir le pape. Et les professeurs étaient derrière le pape, sur la tribune. Et le pape a fait un petit discours merveilleux, comme il sait en faire, en montrant ce que c'est que l'université d'inspiration catholique. Ce que devrait être l'université d'inspiration catholique. Et alors on a demandé après à une étudiante, je crois que ça devait être préparé, je crois, je présume. On a demandé à une étudiante, posez vos questions au pape. On l'a demandé devant tout le monde, et puis il y a une étudiante qui s'est levée. Et là, elle a dit devant tout le monde, devant les professeurs qui étaient là, très Saint-Père, c'est merveilleux ce que vous nous avez dit, mais on voudrait que vous nous répondiez à une question. Nous avons beaucoup de professeurs. Ils sont très informés. Mais nous n'avons pas de maître. Pourquoi nous n'avons pas de maître ? Donc de père. Un maître est toujours un père qui éduque l'intelligence. Mais c'est une question difficile à répondre. Hein, devant tous les professeurs derrière. L'aéropage, moi j'étais bien placé. Alors le Saint-Père a répondu. Pour être un maître, il faut atteindre la sagesse. Il faut un certain âge. Et il faut la contemplation. L'érudition ne suffit pas. C'est très bien l'érudition, mais ça ne suffit pas. J'aurais pu ajouter, et puis, il faut aimer beaucoup ses étudiants. Au seul choix, chez les Dominicains, on faisait la distinction entre les professeurs qui aimaient leurs cours et les professeurs qui aimaient les étudiants. Petite distinction subtile. Donc voici, il faut aimer les deux. Mais c'est un discernement qui est très juste. Un maître, c'est celui qui aime ses étudiants. Il enseigne pour eux. Il aime son cours, si c'est une recherche de la vérité. Il aime son cours en fonction des étudiants. Alors voyez ici, hein, c'est très net. L'ange dit, moi je suis Gabriel. Donc il se présente. Il se présente en montrant son autorité. Son autorité, moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler, t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc c'est net. Il n'a pas reçu la bonne nouvelle comme une bonne nouvelle, comme venant directement de Dieu. Il s'est mis à discuter. À quoi connaîtrais-je cela ? Alors c'est pour ça qu'il le corrige. Vous voyez ? Tandis que Marie, vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut jamais retirer, vous savez bien, une phrase d'un contexte. Et c'est l'ensemble qui fait comprendre. Et ici, parce que c'est la finalité qui fait comprendre. Ici, Marie, comment cela peut-il se faire ? Je ne connais point d'homme. Elle a dû dire ça avec une très grande humilité, en demandant à l'ange de lui indiquer ce qu'elle devait faire. Elle a reçu le message avec tant d'amour qu'elle veut y répondre tout de suite. Mais elle ne voit pas comment. Ça arrive, ça. On voit pas comment. Alors on demande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et demander qu'est-ce qu'il faut faire n'est pas du tout un refus. C'est juste au contraire une avidité de bien répondre. Tandis que quand Zacharie dit à l'ange les mêmes ses paroles, à quoi connaîtrais-je cela ? Il doute. Alors dans la voix, alors n'oubliez jamais hein, que selon l'Écriture, selon l'Évangile de Saint Jean, la voix, c'est l'Esprit Saint. Et quand nous répétons les paroles de Dieu, on peut les répéter avec force, avec conviction, en y adhérant, et en faisant que ces paroles portent, on peut les répéter. Et quand on les répète, c'est terrible. Je connais comme ça un homme qui est un merveilleux acteur. Et il déplore que les lectures au cœur, bah, il ne faisait pas ça pour la remarque ici, mais même ici, que les lectures au cœur ne sont pas faites avec plus de cœur, avec plus d'amour. On monte, on dit. Pas toujours. Hein. C'est vrai, on proclame la parole de Dieu. C'est proclamer la parole de Dieu. Et donc, si on peut, on les lit avant. Tous les grands acteurs lisent leurs textes avant. Toujours. Pour pouvoir mieux proclamer. L'Évangile, on le connaît par cœur, donc ça peut aller. Mais les Épîtres, moins bien. Surtout l'Ancien Testament. Et on doit proclamer. Parce que la voix, c'est l'Esprit Saint. Je trouve ça très beau. La voix, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez, il est dit que le paraclet nous fera vivre tout ce que Jésus a dit de l'intérieur. Alors voyez comment j'interprète en fonction du contexte, tout simplement. Parce que si je regardais uniquement ça, je pourrais dire, bon, après tout, pauvre Zacharie, il avoue qu'il n'est pas très très perspicace. Mais quand on avoue qu'on n'est pas très très perspicace, on a le droit à une explication et pas à une pénitence. Ah oui, mais ça dépend comment il l'a dit. Si on est spectateur, on n'entend pas les nuances de la voix. Quand on est dans un dialogue amical, tout de suite. Vous voyez ? Quand on ne connaît pas une personne, on ne sait pas les nuances de sa voix. On ne connaît pas ça. Et les nuances de la voix, ça joue beaucoup, parce que la voix dépend beaucoup plus du point de vue biologique que du point de vue de l'intelligence. J'en fais l'expérience tous les jours. C'est le point de vue biologique, la voix. C'est attaché à ou à la fatigue, ou j'en sais rien, parce que les médecins ne peuvent pas savoir tout. Mais la voix est une chose très importante. C'est la communication. Tandis que le contenu de la parole, là, c'est l'intelligence. Le contenu de la parole dépend de notre pensée. Tandis que dans un dialogue, alors c'est toujours des dialogues, dans un dialogue, l'intonation joue énormément. Je pense de temps en temps, vous voyez, quand on voit des amis méridionaux hein, qui se parlent avec vigueur, ils se secouent un peu, ils ont toujours un peu l'air d'être un peu en colère pour les gens du Nord, toujours un peu l'impression d'être un peu en colère. Alors, le spectateur, le concierge spectateur, il dit, ah, j'ai vu monsieur un tel, rencontré monsieur un tel, ils se sont mis en colère. Il dit ça à un tiers. L'autre, quelqu'un dit, mais pas du tout, ce sont des amis qui étaient enchantés de se retrouver. Vous voyez, la tonalité. Et au fond, c'est constamment comme ça dans l'écriture. C'est merveilleux, parce que les exégètes, je les aime beaucoup, il y en a de merveilleux. Mais quelquefois, l'exégèse exagère. Aujourd'hui, elle va un peu trop loin. L'Esprit Saint, il est très intelligent, c'est la voix. L'exégèse ne peut rien dire. Rien du tout. Il interprète un texte par la parole vivante. La parole vivante est tout de suite l'exégèse. C'est ça qui est merveilleux. La parole vivante est tout de suite. Elle sort de source. Il y a un petit dialogue chez Platon. Platon, astucieux. L'origine de l'écriture. Et Platon, c'est dans Lyon, Platon monte nature ne répond pas. Donc je l'interprète en fonction de ce que je vis. Dans un dialogue, celui qui parle est vivant et il répond. Je me souviens, j'interprétais ce cours, ce texte m'intéressait beaucoup chez Platon. Parce que je m'étais dit, c'est merveilleux ça. Et c'est très intelligent. Le texte ne répond pas. Le dialogue, on a quelqu'un de vivant qui vous répond. Je savais que dans mon cours, j'avais un jeune pasteur protestant que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup, et qui venait suivre les cours de philosophie à Fribourg, habitant Lausanne. Je me suis dit, je vais lui faire un cours de philosophie pure. Mais il va comprendre peut-être la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Alors j'ai fait ce cours, inspiré, avec le plus d'amour possible et de vérité. Parce que Platon, il est pour les dialogues. La différence entre la parole vivante et l'écriture. Alors, à la fin du cours, il a bondi sur moi. Père, vous avez parlé contre les protestants pendant le cours. Je dis, moi, j'ai rien dit du tout. J'ai pris le texte de Platon ne parle pas contre les protestants, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Mais j'ai simplement donné le texte. Mais j'ai essayé d'expliquer la réalité qu'on expérimente tous les jours. Il y a la parole vivante. Et la parole, elle me dit, mais comment l'écriture est-elle une parole vivante? Ah, je dis, ah oui, ça c'est une très bonne question. L'écriture est une parole vivante grâce à la tradition. Alors il dit, ah là, vous voyez bien. Je dis, je souris à ce moment-là parce que je connaissais suffisamment. J'ai souri, je dis, oui, mais vous voyez, dans mon cours de philosophie, je suis en dehors du point de vue confessionnel. Je suis philosophe. Je suis en dehors du point de vue confessionnel. Vous interprétez comme vous voulez. Ça, c'est votre droit. Mais je suis en dehors du point de vue confessionnel. Je fais de la philosophie. Je n'ai jamais dit un mot au point de vue catholique ou protestant. Jamais. Ça c'est vrai. Mais alors, une fois qu'il me dit, alors je dis, maintenant, on va peut-être discuter ensemble si vous voulez. Alors maintenant, c'est plus le professeur, c'est l'ami. Puisque je vous aime, ben, je vous dis ce que je pense dans mon cœur. Et vous me direz ce que vous pensez dans votre cœur. Et quel est le passage de l'écriture et de la parole vivante? Puisqu'il est dit dans l'épître aux Hébreux que la parole de Dieu est une parole vivante. Comment la parole de Dieu est-elle une parole vivante quand elle est écrite? Est-ce que c'est votre interprétation? Ou est-ce que ça reste quelque chose d'objectif? Alors il n'a pas osé répondre. Il dit, mais répondez-moi. Mais oui, les paroles vivantes à cause de la tradition. Et grâce à la tradition. Parce que la parole de Dieu doit être gardée dans la bonne terre. C'est comme ça qu'elle est parole vivante. C'est par là qu'elle est féconde. Elle doit être gardée dans la bonne terre. Et qu'est-ce que c'est que la bonne terre? C'est le cœur de Marie. C'est le cœur des apôtres. C'est le cœur des saints. Si l'Église canonise des saints, c'est pour montrer le poteau indicateur où il faut passer. Ils ont bien compris la parole de Dieu. Alors j'ai donné cette image qui me frappe beaucoup. On est dans des pays de montagne, à la fin de l'été, vous savez bien, on met des poteaux indicateurs sur la route, parce qu'il peut y avoir des avalanches, il peut y avoir de la neige, il faut que le chasse-neige passe au bon endroit. Et c'est pour ça que ces poteaux indicateurs, pour indiquer la route, parce qu'on ne la voit pas autrement. Il dit voilà, les saints, c'est les poteaux indicateurs. Il peut y avoir des avalanches, il en est plein dedans, on ne voit plus la route. Alors il y a les poteaux indicateurs. Et la tradition, elle est faite des saints et des écrits des saints. Et c'est pour ça que l'Église canonise. Alors il m'a regardé et me dit, mais pourquoi ne dis pas ça? Vas-y, ben, il faut réfléchir. Poteaux indicateurs. La petite Sainte Thérèse, c'est ce que disait le Père Feuillet. Vous voyez, il y a des exégètes qui sont merveilleux. Le père Feuillet m'a dit à moi, le grand exégète, m'a dit, un bon exégète devrait tenir compte de la manière dont une petite Thérèse de l'enfant Jésus comprend la parole de Dieu. Ça, c'est très beau. Parce que la petite Thérèse fait partie de la tradition. La manière dont elle comprend la parole de Dieu. Donc, dans la Ex Divina, je peux regarder Thérèse de l'enfant Jésus qui écoute la parole de Dieu et qui m'apprend à lire la parole de Dieu. Tous les saints. Et la sainte, par excellence, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'est indiqué de questions, hein? Questions et réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Hein. Oui, dites.
Est-ce que vous pouvez expliquer le fait que la foi chrétienne est maternelle.
Ah oui, 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 j'allais très bien, j'allais reprendre ça, c'est très bien. Quel est le premier moment de la foi chrétienne? Le premier moment de la foi chrétienne, c'est Marie dans le mystère de l'Annonciation. Avant, je ne suis pas en présence d'une foi explicitement chrétienne. Donc le premier moment de la foi chrétienne, c'est Marie qui reçoit le message de l'ange. La foi de Marie est substantiellement la même que celle d'Abraham, mais elle a une intensité plus grande et une explicitation plus grande. Sa foi est une foi chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit le message de l'ange du mystère d'incarnation. Ce que nous allons expliquer. Or, la foi de Marie, Dieu lui demande de croire en mère au don qui lui est fait. Dieu lui demande de recevoir le secret du Père. Le mystère de son fils, le fruit de cette génération éternelle qui est restée secret. Il demande à cette petite enfant de recevoir son secret et de le recevoir comme une mère reçoit le secret qu'il y a conception en elle et qu'elle porte un être nouveau, autre qu'elle. C'est un secret. C'est bien évident, c'est un secret. Un secret maternel. C'est le secret de la mère, ça. Elle porte un petit enfant. Et elle seule le sait. Elle le dira. À son époux, à des amis, mais c'est elle. Or, c'est ça qui est extraordinaire, que Dieu prend cette voie d'accès, cette communication pour révéler à Marie le mystère d'incarnation par la parole et la conception du Verbe qui se fait chair en elle, la conception de Marie. C'est pour ça que je dis, c'est une foi maternelle. Elle a un mode maternel, parce que on lui annonce le mystère du Verbe qui va s'incarner, qui est son Fils. Alors je dirais qu'elle est doublement maternelle. Elle est maternelle quant à l'objet. Elle porte sur cette révélation que elle sera la mère du Fils du Très-Haut. Elle sera la mère du Fils de Dieu. Donc, sa foi porte sur le mystère du Fils. Son Fils. Dieu lui demande de croire. C'est son fils, et c'est le fils de Dieu. Et elle est... c'est merveilleux. La connaissance de foi n'est pas une connaissance scientifique. C'est une connaissance affective, aimante, maternelle. Alors, elle sera la connaissance de l'ami avec l'ami. Elle sera la connaissance de Marie à la croix. Vous voyez, il y a ces deux modalités de foi, puisqu'on me pose la question pour bien voir le point de vue maternel. Le premier moment, le premier acte de foi, selon l'ordre génétique. Moment de l'apparition de l'acte de foi chrétienne, c'est ici, c'est la mère. À la croix, c'est encore la mère. Elle va porter dans son cœur, dans sa foi, le sacrifice de son fils pour compléter, achever le sacrifice de son fils en mère. C'est merveilleux, ça. On le dit jamais. Hein. Hélas, on le dit pas beaucoup, du moins. Parce que on a l'air de dire, ben, je me souviens, c'était à Fribourg. J'avais à côté de moi, dans ma cellule à côté, le père de Ménas, dominicain. Un grand juif d'Alexandrie, des grosses banques d'Alexandrie. Extraordinairement intelligent, connaissant parfaitement le persan, c'était sa spécialité. Et il se délectait dans du persan du 15e siècle. Parce que, évidemment, il avait un gros de une chaire haute étude justement sur le persan du 15e siècle. C'était le spécialiste numéro 1 français. Et puis il m'appelle, il cogne à ma porte pour venir. Et puis il me dit, voilà, regardez ce texte. C'était une apologétie mazdéenne, donc persane, contre le christianisme. Cette religion qui repose sur la foi d'une femme. C'est ça, merveilleux. Cette religion, elle vaut rien, elle repose sur la foi d'une femme. Si je veux regarder la tendresse de Dieu et la miséricorde de Dieu, c'est étonnant. C'est vrai. Dieu a été jusque-là. Il a voulu donner son fils à une petite créature, à une femme, pour qu'elle devienne la mère de Dieu. Alors ça, c'est unique. Pour moi, c'est le point le plus beau de la foi chrétienne. Elle repose sur le témoignage d'une femme. Et cette femme est notre mère. Alors c'est encore plus beau. C'est encore plus étonnant. On est apparenté à sa foi, puisqu'elle est notre mère. Et donc, nous avons le même langage maternel.